Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, quelle économie à venir? On en parle avec notre invité, Gaël Giraud, l'iconoclaste. Prêtre jésuite, l'ancien chef économiste de l'Agence française pour le développement, revient dans un dialogue avec l'économiste sénégalais Felwyn Sahar sur l'économie à venir. L'ouvrage paraît au lien qui libère. Entre héritage et prospective, ils réfléchissent ensemble à une autre manière de penser leur discipline en la faisant dialoguer avec toutes les sciences. Nous sommes dans des économies de la malcroissance, constate notamment Sahar le sénégalais. Plaidoyer aujourd'hui pour une économie relationnelle, cet ouvrage à deux mains appelle aussi, enfin, à penser l'après-Covid. Bonjour Gaël Giraud.
Bonjour.
Bonjour, vous restez directeur de recherche au CNRS, mais depuis votre départ de l'AFD, vous avez entre autres rejoint l'université de Georgetown. Vous êtes donc aujourd'hui avec nous en direct de Washington. Vous d'ailleurs qui réfléchissez à déconstruire le capitalisme, les États-Unis c'est un bon poste d'observation, c'est un bon lieu pour étudier aujourd'hui, pour penser.
Ah oui, tout à fait. C'est un lieu absolument fascinant avec ce qui se passe aujourd'hui concernant l'administration Biden et le tournant qui est pris par les États-Unis du côté, on pourrait dire, d'une politique publique rooseveltienne. Ce serait intéressant d'ailleurs que la France en débatte davantage et que ça puisse inspirer les autorités françaises.
Vous constatez aujourd'hui ce qui se passe dans la vie politique américaine et notamment en matière d'économie, mais vous parlez aussi avec vos collègues, vos confrères. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe en termes d'idées à l'université Georgetown où vous êtes en ce moment, où vous êtes directeur du Georgetown Environmental Justice Program dans cette université? Est-ce que les idées circulent beaucoup? Est-ce qu'il y a des débats d'idées?
Oui, si vous voulez, la grande question qui nous est posée à nous, c'est comment articuler la question de la justice sociale avec celle de la lutte contre le dérèglement climatique et plus globalement des crises écologiques. Le constat que tout le monde fait, c'est que les premières victimes des crises écologiques qui sont déjà engagées, ce sont les plus pauvres d'entre nous, à la fois les pays les plus pauvres et à l'intérieur de chaque pays, les populations les plus déshéritées et les moins protégées, alors que ce sont les moins responsables des dégradations écologiques que nous perpétrons aujourd'hui sur les écosystèmes qui nous entourent. Et donc, il y a une injustice flagrante, très forte, alors qui, avec le prisme américain, est plutôt vu souvent sous l'angle environnement et inégalité de genre, environnement et inégalité sociale, environnement et racisme, mais que, avec mon chapeau européen, je vais essayer d'élargir la question à une question globale sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à penser la question de la justice environnementale au niveau planétaire.
Voilà, vous évoquez votre point de vue, vous, d'Européens, le point de vue des Américains. Comment raconter, comment définir la complémentarité que vous avez trouvée et l'identité aussi particulière de cette voix qu'incarne Felwyn Sahar aujourd'hui? Felwyn Sahar, c'est l'auteur d'Afrotopia. Ce qui est intéressant dans ce dialogue que vous avez noué, et cette question environnementale traverse aussi d'ailleurs vos réflexions, c'est que cet économiste sénégalais ne parle pas du même endroit que vous également, et que vous questionnez surtout vos héritages respectifs qui sont différents, qui se recoupent par moments. Quelles sont pour vous les similitudes, les complémentarités entre vous deux?
En fait, je crois que ce qui a émergé de la discussion avec Felwyn, c'est l'idée que nous autres Européens et plus globalement occidentaux, nous n'arrivons plus à assumer l'héritage des Lumières qui viennent chez nous, et que nous avons besoin de passer par l'altérité de la rencontre, notamment avec un certain nombre de civilisations africaines, pour réapprendre ce que signifie pour nous aujourd'hui d'être les enfants des Lumières du XVIIIe siècle. Et Felwyn, lui de son côté, partant d'un autre point évidemment, nous dit, à nous occidentaux, à condition que nous arrivions à traverser l'épreuve de la décolonisation, c'est-à-dire en fait d'un dépouillement de tout ce rapport violent qui a quand même caractérisé pendant des siècles les relations entre l'Europe et l'Afrique, alors effectivement, l'Afrique peut aujourd'hui aider et en fait nous enseigner à nous ce que signifierait d'assumer complètement notre héritage en dialogue avec l'Afrique. Et au fond, d'une certaine manière, de refonder notre rapport aux Lumières et d'engager une deuxième modernité.
Voilà, et vous plaidez tous les deux, c'est intéressant pour un décentrement des regards. Hein. Alain Supiot, qui a préfacé cet ouvrage, ce dialogue, Alain Supiot du Collège de France, dit que vous êtes deux économistes qui considèrent l'économie comme indissolublement liée à des questions de politique, de morale, d'histoire, de géographie, de droit ou de religion. Ça, c'est le partage des sciences, le partage des savoirs qui est au cœur de votre pensée à l'un et l'autre. Et sur ce décentrement des regards, Felwyn Sahar raconte « Il faut réapprendre à l'Européen et à d'autres à s'ouvrir s'ouvrir à des imaginaires autres, pluriels, et à sortir d'une autoréférentialité intellectuelle d'abord, puis autoréférentialité de l'imaginaire. Vous, vous dites qu'à travers votre expérience, vous avez rapidement appris le décentrement du regard, hein, que ça relève probablement pour vous, l'expression est étonnante, d'une forme de djihad intérieur qui s'est produite en vous quand vous êtes qu'on vous a envoyé au Tchad. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience ?
Oui, j'ai été envoyé, j'étais pour le service civil au Tchad comme prof de mathématiques et de physique dans un lycée en Beauce, au sud du Tchad. Et j'ai passé beaucoup de temps avec à la fois les enfants de la rue d'un côté et puis dans une prison. Dans la prison parce que dans cette prison à Sarre, les femmes n'étaient pas séparées des hommes et donc étaient violées par les prisonniers toutes les nuits, tombaient enceintes et accouchaient dans la prison dans des conditions épouvantables. Et le gamin, évidemment, mourait au bout de quelques heures à cause des conditions d'hygiène catastrophiques. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de sauver ces femmes. Et puis les enfants de la rue, en fait, j'ai appris à vivre avec eux, à me laisser adopter par eux. Et puis finalement, au bout de 2 ans, nous avons construit ensemble un centre d'accueil pour eux, qui est tout petit, ça n'accueille que 40 enfants, mais qui tourne toujours plus de 20 ans après. Et donc c'est la preuve que ça marche. Et d'une certaine manière, on pourrait dire ces enfants de la rue m'ont réappris un rapport à l'existence, à la vie, à la joie, que nous, en Occident, nous avons d'une certaine manière oublié. Au moment où je suis parti, très malheureux de partir, évidemment, je serais volontiers resté, les enfants m'ont dit, bon, quand tu auras des cheveux blancs, eh bien, nous ferons la cuisine pour toi et nous l'enverrons en Europe. Voilà, vous voyez, ça vous dit quelque chose du rapport qui s'était installé entre nous.
Mmh. Et du manque de petits plats, alors du coup, que vous pouvez éprouver. Ça nous dit quelque chose aussi de cette expérience de décentrement du regard, Gaël Giraud. Comment ça a aussi nourri l'économiste que vous alliez devenir ?
C'est certain que, disons, la rencontre avec ces enfants de la rue m'a complètement transformé. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'ai refusé un poste de trader à New York quelques années après, parce que je me suis dit, ce que j'ai vécu dans ma case sans eau, sans électricité, avec ces enfants, j'ai pas le droit d'une certaine manière de le renier. Et vivre comme trader à New York, ça aurait été renier ça, renier cette expérience-là. Et puis certainement, si je suis devenu religieux jésuite, c'est aussi en grande partie grâce à cette expérience. Voilà. Et aujourd'hui, comme économiste, on pourrait dire ils sont une force de rappel vers le réel. C'est-à-dire, je crois que malheureusement, une bonne partie de mes collègues, et sans doute aussi moi-même en partie, nous sommes pris par, disons, des constructions théoriques qui n'ont plus grand-chose à voir avec le réel. Si vous regardez les modèles qu'on utilise en économie, aussi bien les modèles du FMI que de la Banque mondiale, que de la BCE en Europe, la Banque de France, ce sont des modèles dans lesquels il n'y a pas de monnaie, bizarrement. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a que des quantités extrêmement abstraites, des euros sans monnaie, des banques qui ne font pas de crédit. Donc, c'est un monde complètement artificiel qui n'a quasiment aucun lien avec le monde réel. Et les enfants de la rue, et c'est l'expérience que j'ai faite là, que j'ai poursuivie ensuite. J'ai été prof, par exemple, pour des enfants de Tziganes en France, du côté de Saint-Étienne. J'allais leur faire la classe dans la roulotte. Ces expériences-là constituent des forces de rappel vers le monde réel. C'est-à-dire, en fait, ce qui compte, c'est quand même aujourd'hui pouvoir améliorer le sort des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui sur cette planète. Pas simplement de publier dans les meilleures revues académiques et de faire des beaux modèles. Donc là, il y a un travail de reprise de contact avec le monde réel que malheureusement une bonne partie de mes collègues, à mon avis, ne font pas.
On aurait chaussé les mauvaises lunettes à vous lire, Gaël Giraud, et à écouter une partie des chercheurs aujourd'hui. On aurait adopté les mauvais indicateurs. C'est peut-être ça qu'il faut commencer à changer si on envisage ensemble cette économie à venir. Je vous propose d'écouter les mots d'Éloi Laurent. Il est l'auteur de Nos mythologies économiques. On le recevait à l'occasion de la sortie de son livre « Et si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance ». C'était au lien qui libère aussi. Et c'était l'an dernier, on écoute Éloi Laurent.
J'essaie de montrer pourquoi il faut sortir de la croissance du PIB comme indicateur fondamental de l'horizon social, disons, et comment on peut le faire pratiquement. Mais la question, c'est ensuite pour faire quoi ? Et en un sens, l'idée, c'est sortir de la croissance pour entrer dans l'espérance. Ce qu'il y a après la croissance, qu'il y a après ce monde du XXe siècle, c'est fondamentalement effectivement l'espérance de vie et la pleine santé, c'est-à-dire tous ces indicateurs de santé qui, à mon avis, sont infiniment supérieurs que les indicateurs type croissance économique et même taux de chômage pour comprendre les défis du XXIe siècle et pour saisir le développement humain. L'espérance de vie, c'est un indicateur qui permet de voir les inégalités, alors que la croissance ne permet absolument pas de les voir. C'est un indicateur qui permet de prendre en compte la question des crises écologiques, alors que la croissance du PIB ne permet absolument pas de le prendre en compte. Et c'est aussi un indicateur qui permet de dépasser l'illusion de cette question du plein emploi. Regardez la société américaine. La société américaine, avant la pandémie, c'est 3% de taux de chômage. 3% de taux de chômage, c'est l'indicateur donné par Beveridge en 1944 sur ce qu'est une société en plein emploi. Mmh. Et pourtant, il ne fait aucun doute que la société américaine est une société malade.
Voilà, Éloi Laurent, Gaël Giraud, il y a aussi pour vous urgence à changer les indicateurs. On ne bosse pas aujourd'hui, on ne réfléchit pas avec les bons outils de calcul et d'interprétation.
Oui, c'est très clair. L'Assemblée nationale continue d'évaluer les projets de loi de finances uniquement à l'aune de ce que ça conduira et de ce que ça induira en termes de PIB, hein, donc de croissance du PIB. Je suis entièrement d'accord avec mon ami Éloi. Donc l'espérance de vie, c'est certainement un des indicateurs alternatifs qu'il faut mettre en avant. Il y aurait certainement aussi la question de l'éducation et puis certainement aussi des mesures d'inégalité que l'espérance de vie ne capture pas entièrement. Et puis d'empreinte écologique. Moi, je dirais c'est ça les quatre grands piliers de ce qu'il faut mettre en avant à la place du PIB. Hein, l'espérance de vie en bonne santé, disons, l'éducation, certains types d'inégalités et puis l'empreinte écologique. Voilà, on sait construire ces indicateurs aujourd'hui. La grande difficulté politique, c'est d'accepter de changer de paradigme. C'est pas un problème technique. On sait faire de ce genre de choses déjà.
Mais vous allez assez loin, hein, Gaël Giraud, sur le PIB. Hein. Vous dites que c'est un mantra magique qui sert à imposer un contrôle sur le comportement des personnes en moralisant nos relations économiques sur un thème culpabilisateur. Si vous ne faites pas cela, vous ne contribuez pas à la prospérité. Ou bien si vous ne payez pas vos dettes, vous êtes de mauvais citoyens. Pourtant, celui qui formule ce type d'injonction n'a aucune idée des raisons pour lesquelles davantage d'épargne, par exemple, pourrait contribuer à la prospérité. Et ce, dans un chapitre intitulé « Faire confiance en souffrant ». Il y a un lien entre ce PIB, cette prospérité qu'il implique pour vous et la souffrance, ou cette idée de souffrance.
Oui, tout à fait. Ce qui m'a éclairé là-dessus, c'est un article qui est passé complètement inaperçu de Padoa Schioppa, qui, comme vous le savez sûrement, a été ministre en Italie et puis a joué un très grand rôle dans la construction européenne, en 2003. Alors qu'à l'époque, disons, si on regarde les indicateurs classiques que les économistes sont habitués à regarder, tout se passe bien pour la zone euro. Padoa Schioppa, dans la torpeur de l'été, en Italie, à Rome, publie un article pour dire « bon, les Européens vont devoir souffrir pour être dignes d'être Européens ». C'est un article absolument incroyable que je cite dans la discussion avec Felwin, voilà, qui montre qu'au fond, une partie de nos élites sont convaincues que, d'une certaine manière, il y a une grande dette fondamentale à rembourser pour avoir le droit d'exister et d'être en relation avec les autres. Et cette dette, évidemment, eux n'ont aucune intention de la payer, ils vont la faire payer par les pauvres. Et donc, il y a cette espèce de religion, comment dire, païenne, sous-jacente à l'économie néoclassique contemporaine. Quand vous écoutez beaucoup d'économistes, en fait, ils font leur discours ressemble vraiment à des prêches dominicaux. Et je dis ça comme prêtre.
Hein, oui, c'est bien.
En fait, ils font des homélies dans lesquelles, des homélies de très très mauvaise qualité hein, d'ailleurs, dans lesquelles au fond, à la fin, il s'agit toujours de faire davantage confiance aux élites, même si ça va très très mal, parce que à condition de souffrir un petit peu plus, ça ira mieux demain. Voilà. Et le PIB là-dedans joue un rôle effectivement de mantra magique, parce qu'en réalité, les modèles utilisés par les économistes ne permettent pas d'expliquer ni la croissance ni la décroissance du PIB. Dans les années 60, il y a un travail absolument remarquable qui avait été fait par Robert Solow, qui a eu le prix Nobel, qui montrait que les modèles classiques de l'époque n'expliquent au mieux que 40% de la croissance du PIB américain pendant les 30 glorieuses. Et en fait, aujourd'hui, on a très peu progressé sur ce point. Donc, en vérité, les économistes ne savent pas pourquoi le PIB augmente ou il baisse. Alors, après coup, ex post, ils vous racontent beaucoup d'histoires pour vous dire pourquoi ça a baissé ou pourquoi ça a augmenté. Mais ex ante, ils en sont incapables. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Qui est une espèce d'objet magique, un petit peu comme les oiseaux que regardaient les devins sous l'Empire romain. Ils regardaient les oiseaux dans le ciel, ils disaient voilà ce qui va se passer. Alors qu'il n'y avait aucune raison, aucune explication du fait que les oiseaux volaient plutôt vers la gauche ou vers la droite. Vous voyez, c'est complètement, tout ça est complètement arbitraire et destiné à maintenir un ordre social extrêmement violent et moralisant. Où on culpabilise les plus pauvres, d'abord parce qu'ils sont pauvres, et ensuite on leur dit, écoutez, contentez-vous de votre sort et faites un effort de plus. Vous voyez, par exemple, le concept de résilience, sur lequel on discute beaucoup avec Felwin dans ce livre, est un concept extrêmement ambigu. C'est à la fois quelque chose de très fondamental, hein, du point de vue psychologique, mais aussi, quand c'est réutilisé par un certain nombre d'économistes, ça devient une occasion pour eux de dire aux plus pauvres et aux victimes, en fait, du jeu post-libéral, écoutez, soyez résilients par rapport à la thérapie du choc que nous vous infligeons. Regardez ce qui se passe avec la pandémie et ce que nous avons infligé à la jeune génération, hein, en France en particulier. Moi, j'ai vu mes étudiants, c'est très, très impressionnant, qui étaient complètement déprimés. Je comprends très bien qu'il y ait une vague de suicides d'étudiants en France, en particulier à Paris, au cours des derniers mois, parce que ce qu'on leur a fait subir est absolument épouvantable. Mettez-vous à la place d'un jeune de 20 ans aujourd'hui qui vient de passer un an confiné et qui s'interroge sur le type d'existence qu'il va mener dans notre société à l'avenir. Et alors évidemment, le discours qu'on leur tient, en tout cas que leur tient une partie de ma génération, c'est « écoutez les enfants, soyez résilients, Voilà. Et ça, c'est vraiment une injonction perverse parce que la thérapie du choc que nous venons de leur infliger n'était absolument pas nécessaire. Si on s'était préparé un tout petit peu, on n'avait pas besoin de se confiner. Un certain nombre de pays ont très très bien géré la pandémie sans confinement. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment, disons, quelque chose d'assez épouvantable par rapport à quoi on appelle, Felwin et moi, dans notre livre, c'est une prise de conscience, un sursaut, une indignation pour inventer un autre rapport au monde et à la société.
Vous ne rejouez pas pour autant le conflit des générations, mais c'est quand même étonnant ou intéressant à vous lire que ces discours viennent par ailleurs d'une génération qui n'a pas été très résiliente, qui a plutôt profité de toutes ces largesses aussi à un moment.
Oui, tout à fait. Oui, ma génération, et encore plus la génération de mes parents, nos parents, ont quand même été très très privilégiés. Probablement que ce sont les générations d'humanité qui ont vécu le niveau de prospérité maximale que l'humanité connaîtra au cours de son histoire, en tout cas sur plusieurs siècles, ça c'est certain.
Alors on a pointé du doigt ces mauvais indicateurs, selon vous, ces outils qu'il faudrait changer. Il y a un autre lien très intéressant que vous faites dans cette discussion, dans ce dialogue, c'est la dépendance, la question de la dépendance de notre économie au pétrole, plus largement aux énergies fossiles. Quel est ce lien? Qu'est-ce que les travaux, notamment de Timothy Mitchell que vous citez, nous disent du lien entre démocratie et énergie fossile, ce lien de dépendance?
Oui, en fait, ce que montre Timothy Mitchell, qui est un grand historien américain, c'est que d'une certaine manière, on pourrait dire les grandes avancées sociales du 19e siècle en Europe ont été rendues possibles par la civilisation du charbon. Pourquoi ? Parce que le charbon est très coûteux et difficile à transporter. De sorte que lorsque vous êtes mineur au fond de la mine, d'une certaine manière, vous avez un pouvoir de négociation et de chantage assez considérable sur vos employeurs et sur la ville dont l'alimentation en électricité dépend de ce que vous faites au fond de la mine. Et d'une certaine manière, on peut relire les conflits sociaux du 19e comme l'apprentissage qu'a un cas, évidemment dans la souffrance et la douleur, c'est pas une manière de minimiser ce qui s'est passé au 19e, mais en tout cas l'apprentissage de ce pouvoir des négociations dont le résultat ont été quand même les très très grandes avancées sociales du 19e. Et puis, avec la révolution du pétrole, ça change complètement. Pourquoi ? Parce que le pétrole, à la différence du charbon, est très facile à transporter. Et donc lorsque le pétrole se surajoute au charbon comme énergie fondamentale, en particulier pour la mobilité, pour la voiture, l'avion, etc., alors les données, disons, on pourrait dire politiques, changent complètement parce que vous ne pouvez plus faire pression sur une ville qui a besoin de s'alimenter en pétrole. Si vous bloquez, disons, la plateforme d'extraction de pétrole, eh bien, la ville pourra s'alimenter ailleurs en pétrole. Et donc, vous perdez ce pouvoir de négociation. Alors, la façon dont je lis ça, pour ma part, c'est que ce qui s'est passé pendant les Trente Glorieuses, c'est un moment absolument extraordinaire dans l'histoire, entre 1945, en gros, et le milieu des années 70, où notre société en Europe et aux États-Unis, au fond, a gardé les structures politiques de la civilisation du charbon, qui était très peu inégalitaire, en fait, parce que justement, il y avait beaucoup de redistribution du pouvoir d'achat à cause de cette négociation salariale, disons, très favorable ou plutôt favorable aux salariés, tout en bénéficiant des joies, si je puis dire, de la civilisation et de la technique du pétrole, qui avait commencé à se diffuser massivement en Europe avec, on pourrait appeler ça, la consommation de masse. Et donc là, il y a eu 30 années absolument inouïes, une croissance incroyable, qui s'est réalisée aux dépens de l'écologie, hein, donc c'est extrêmement destructeur d'un point de vue écologique, mais peu d'entre nous en avaient conscience à l'époque, en tout cas du côté de nos parents. Et puis à partir des années 70, et cette grande vague qu'on appelle à tort, à mon avis, néolibérale, mais que moi je baptise post-libérale, au fond, il y a un réajustement des structures politiques à la nouvelle donne que représente le pétrole. Et donc une renégociation des rapports de force à l'intérieur de notre société en faveur de ceux qui détiennent le capital et de ceux qui ont le pouvoir. Donc d'une certaine manière, la réduction par exemple de la part des salaires dans le PIB depuis les années 80, qui ne cesse de baisser un peu partout dans les pays occidentaux, c'est le résultat de ceci, c'est-à-dire d'une société qui est très très dépendante au pétrole et qui découvre qu'au fond, le pétrole a complètement miné le pouvoir de négociation des plus déshérités d'entre nous.
Et comment vous lisez ça, cette théorie, à l'aune de la pandémie, aujourd'hui, quelle piste ça ouvre ?
Alors, la grande question que ça pose aujourd'hui à l'aune de la pandémie, c'est quelle économie politique allons-nous mettre en place avec les énergies renouvelables ? La pandémie a quand même aujourd'hui fait prendre conscience à un certain nombre d'entre nous que notre rapport, disons, à la nature, avec trois guillemets, a besoin de changer, et que la déforestation, le rapprochement avec... dont la virologie nous est complètement inconnue, est quelque chose d'extrêmement dangereux pour nous. Donc il faut réapprendre à négocier notre rapport, disons, à la nature. Et ça pose la question de la société que nous allons construire dans les années et les décennies qui viennent, dans un monde bas carbone. Nous y sommes engagés et de toute façon, nous sommes contraints de le faire, sinon cette planète deviendrait inhabitable. Alors, quel type d'économie politique va se dégager de ça? Moi, je crois qu'il y a deux grandes options pour caricaturer un peu le débat, si vous voulez. D'un côté, vous avez le monde dont beaucoup d'activistes écologistes rêvent, et à juste titre, hein, qui est est un monde extrêmement décentralisé, en gros, où chacun d'entre nous pourra produire de l'électricité dans son jardin, par exemple avec une éolienne. C'est un peu, disons, la direction qui a été prise pendant quelques années en Allemagne avec toutes ces coopératives décentralisées de production d'électricité à la maison. Et puis, et donc ça, ça va de pair, évidemment, avec une démocratie très décentralisée également, très participative. Bon. Et puis, vous avez malheureusement une deuxième option qui est exactement le contraire, c'est-à-dire un État extrêmement centralisé, autoritaire, fort, violent, allié avec un capital privé tout aussi puissant parce que on reste dans une société très inégalitaire. Ceci est rendu possible par la remarque très simple que, paradoxalement, les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont beaucoup plus capitalistiques, ont une intensité en capital bien supérieure aux infrastructures liées aux énergies fossiles. Quelque chose qui est peu remarqué par les économistes. Et c'est lié au fait que le coût d'entretien des infrastructures liées aux énergies renouvelables, qu'il s'agisse du photovoltaïque, des éoliennes, etc., est beaucoup plus faible que pour les centrales à charbon, les plateformes d'extraction pétrolière, etc. Et donc la part du capital dans le coût de production d'un kilowattheure électrique dans les énergies renouvelables est beaucoup plus importante que dans les énergies fossiles, ce qui donne un pouvoir de négociation assez fondamental au capital, pour reprendre les grandes catégories. Et donc on a cette deuxième option qui est plutôt incarnée par la Chine aujourd'hui, un État centralisé, autoritaire, antidémocratique, qui fait alliance avec le secteur privé. Et d'une certaine manière, ce qui se passe en France aujourd'hui, à mon avis, est le fait que nous sommes à la croisée des chemins, que certains d'entre nous rêvent d'avancer dans la première option, une société très décentralisée, par exemple autour des communs, et puis d'autres, au contraire, se disent « mais c'est une opportunité extraordinaire pour avancer vers la seconde option, une option antidémocratique, violente, mais qui donnera beaucoup de pouvoir à une toute petite élite qui aura accès à l'énergie et au capital ».
Voilà, on a commencé à poser les bases à travers cette question à la fois des indicateurs, des énergies fossiles, du lien de dépendance qui a pu s'installer aussi sur ce point-là. On va continuer à réfléchir ensemble à cette économie à venir avec vous, Gaël Giraud, vous êtes notre invité jusqu'à 13h30.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Comment la définir d'ailleurs, cette économie à venir qui donne son titre à cet ouvrage, ce livre de dialogue que vous avez mené avec l'économiste Felwine Sarr, préfacé par Alain Supiot et qui paraît au lien qui libère. Comment définir l'économie à venir? Eh bien, Felwine Sarr nous montre un chemin avec la teranga. Cela veut dire, raconte-t-il, l'hospitalité, l'accueil. Mais ça va plus loin que l'hospitalité, que l'idée de bien accueillir les gens. C'est une éthique qui fait que l'on considère qu'à l'autre doit être prodigué le plus grand soin. La relation dite être l'objet de soin. La valeur se trouve véritablement dans le soin mis dans la relation. On la soigne, on y investit du temps, de l'énergie et de l'information afin qu'elle soit de qualité. Cela va complètement à l'encontre de la rationalité économique et de l'optimisation à coût minimal. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette perception, Gaël Giraud, de cette idée d'une économie des relations, du teranga? Qu'est-ce qui vous séduit?
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la réflexion de Felwine rejoint complètement des réflexions et des travaux que j'ai avec un certain nombre d'autres chercheurs, par exemple Mark Swilling en Afrique du Sud, et puis avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Hein, si vous regardez un peu, par exemple, les travaux du théologien Christophe Theobald, un théologien jésuite, il va tout à fait dans ce sens, c'est-à-dire la découverte que nous sommes en train de faire, c'est qu'au fond, la relation est ce qu'il y a de primordial. Au commencement, vous pourriez dire, était la relation, que les êtres que nous sommes, ce sont avant tout des êtres en relation, à la fois avec autrui, avec la nature, avec le monde, bon, que sans cette relation, nous n'existons pas, et que c'est elle que nous devons, comme dit Felwine, c'est elle que nous devons soigner, au sens où il faut en prendre soin. Alors, la question de l'hospitalité entre là-dedans, parce qu'elle est le lieu par excellence de cristallisation de la manière dont nous prenons soin ou non de nos relations. Nous discutons avec Felwine, par exemple, de la question posée par Jacques Derrida, déjà à son époque, hein, comment est-ce qu'une hospitalité absolue et inconditionnelle est possible? En réalité, c'est impossible, au sens où les gestes d'hospitalité que nous pouvons poser sont toujours conditionnés par une culture. Si je vous accueille chez moi, je vous accueille dans une certaine langue, à un certain endroit, et par exemple, il faudra vous déchausser ou non, il faudra accomplir un certain nombre de gestes préliminaires avant d'entrer chez moi. Bon. Donc tout ça est conditionné à un passé, à une histoire, à une tradition. Donc au fond, l'hospitalité telle que la promeut la teranga, et toute l'anthropologie qui est derrière, hein. Donc on parle aussi avec Felwine de l'ubuntu, qui est cette idée que voilà, justement, l'anthropologie doit être avant tout relationnelle. Bon, tout ceci est à la fois nécessaire, absolument indispensable, et d'une certaine manière impossible. Et alors, on a un débat là-dessus, parce que Felwine, comme musulman d'un côté, moi comme chrétien de l'autre, évidemment, nous entrons en dialogue avec l'intellectuel juif qu'a été Jacques Derrida pour dire, est-ce que vraiment on peut se contenter de cette aporie d'un impossible nécessaire? C'est là que, d'une certaine manière, l'expérience chrétienne entre en jeu et dit, voilà, ce qui était apparemment impossible et nécessaire, en réalité est possible. C'est-à-dire qu'il nous arrive, on pourrait dire par grâce, par miracle, de poser des vrais gestes d'hospitalité, de faire une véritable expérience d'amour, de relation juste, gratuite, avec autrui, même si c'est une brève expérience. C'est toujours une surprise qui nous advient un peu de l'extérieur, mais qui est extraordinaire, et c'est ça qui fait le sens de l'existence.
Voilà, de l'avantage du dialogue entre les disciplines et du dialogue entre les religions. C'est Pierre Dardot qu'on recevait récemment, philosophe français, qui a beaucoup travaillé avec Christian Laval sur la question des communs, qui rappelait l'importance des expériences, de cette expérience des communs, hein, des échanges, des fédérations d'expériences, et notamment, selon lui, pour penser à quelque chose qui procéderait à un débordement par le haut et par le bas de l'État aujourd'hui. Comment, quelle vulnérabilité la pandémie a révélée et comment en faire une force aujourd'hui? Je vous propose d'écouter les mots de Felwine Sarr, qui dialogue donc avec vous dans ce livre, Économie sénégalais, et qu'on recevait ici à la Grande Table à l'occasion de La saveur des derniers maîtres, son ouvrage Parcours, paru chez Philippe Ray.
La crise, de toute manière, elle affecte tout le monde, elle affecte l'économie globale, et l'économie globale est en récession, mais le continent l'est relativement moins que le reste du monde, parce qu'il était déjà en croissance, donc une croissance beaucoup plus importante que le reste du monde. Il est affecté, mais j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de mitigation des effets. Les effets ont pu être mitigés jusque-là. Maintenant, si la crise dure et perdure, bien évidemment, je veux dire, la problématique économique demeure et il faudra y faire face et répondre de manière adéquate. Mais ce que j'ai trouvé, moi, remarquable, c'est qu'il y a eu une mobilisation de toutes les ressources vives. J'ai rarement vu une telle mobilisation pour apporter et contribuer au destin du pays. Et je me dis aussi que l'enseignement que nous devons tirer, c'est justement de nous dire, tiens, voici nos vulnérabilités, voici les vulnérabilités auxquelles nous devons faire face, et que fondamentalement, voici les choix que j'appelle structurels de société et de civilisation qu'il faut faire, quoi. Des choix liés à une économie qui nourrit le vivant, des choix liés à de la santé, à de l'éducation, des choix liés à notre rapport à l'écologie, et le fait de savoir que il y a des ressources qui sont sur place, sur lesquelles on peut compter lorsqu'il y a des difficultés.
La crise a révélé aussi pour vous, Gaël Giraud, la vulnérabilité de nos sociétés, l'abandon du service public, ajoutez-vous le manque d'investissement dans la recherche et au-delà. Comment fait-on pour passer d'une économie monde, productrice d'inégalités, dites-vous l'un et l'autre, à une économie du vivant? Quels sont les choix à faire que cette pandémie a surligné?
Oh, il y a certainement un deuil à faire aujourd'hui de ce qu'on a appelé la globalisation marchande qui caractérise nos relations internationales depuis une quarantaine d'années. Ce que la pandémie a montré, c'est que les chaînes de valeur à flux tendu qui font que notre approvisionnement dans un certain nombre de denrées essentielles à l'existence dépend complètement de ce qui se passe de l'autre côté de la planète, et que si le long de la chaîne de valeur il y a un maillon qui est défaillant pour quelque raison que ce soit, par exemple parce que les salariés de ce maillon sont contaminés par le virus et sont malades, alors l'approvisionnement ne se fait plus. Donc ça nous rend dans une dépendance, ça nous plonge dans une dépendance qui est extrêmement dangereuse. Voilà, c'est ça dont nous avons fait l'expérience, avec notre incapacité à nous, en France, à produire les enzymes nécessaires pour faire les tests, ensuite à produire les masques, ensuite à produire le vaccin, etc. Alors que nous avions l'un des meilleurs systèmes sanitaires, sinon le meilleur système sanitaire du monde, il y a encore une quinzaine d'années, ce qui est très impressionnant. Donc là, ça c'est tout le thème, si vous voulez, de la relocalisation économique, industrielle, c'est-à-dire réapprendre à produire chez nous, ce qui est tout à fait possible, contrairement à ce que raconte un certain nombre de mes collègues, et qui ne renchérira pas forcément le coût de la vie, parce que, si vous voulez, le choix qu'on a aujourd'hui, c'est, en France par exemple, c'est être au chômage et acheter pas cher ce qui est produit en Chine, versus avoir un travail et acheter un peu plus cher ce qui est produit en France. Bon, je crois que beaucoup d'entre nous seront très favorables à la deuxième option. Donc ça, c'est cette question-là. Et puis, une autre manière complémentaire d'avancer du côté de ce qu'on pourrait appeler une économie du vivant, une économie de l'espérance, une économie relationnelle, c'est de mettre en place des communs, ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure en citant Pierre Dardot et Christian Laval.
Vous parlez d'entre nous, vous avez aussi cette notion d'entre nous qui va à côté de cette idée de commun, de communauté, mais sans juste à comprendre quelle est la bonne échelle aussi pour vous pour l'appliquer.
Alors, toutes les échelles sont les bonnes. C'est-à-dire, c'est vrai que dans les travaux des anthropologues ou des économistes qui s'intéressent au commun se focalisent souvent sur l'échelle locale, et à juste titre, parce qu'il y a beaucoup d'expériences locales de commun, hein, de commun partagé, d'éco-lieux, d'éco-villages, d'éco-campus, etc. Mais l'échelle internationale me paraît pas moins absolument fondamentale. Hein. Prenons l'exemple de la santé avec la pandémie. Ce qu'elle nous a montré, c'est que la santé d'une famille à Wuhan, en Chine, concerne la totalité de l'humanité, et que donc la santé est un commun, c'est-à-dire c'est un bien universel auquel nous aspirons tous, qui est extrêmement fragile, parce que sa privatisation le détruit. Hein. Si vous privatisez la santé, les plus pauvres n'auront pas accès aux soins de santé, parce que ce sera toujours trop cher pour eux, et donc continueront de diffuser le virus, et donc même ceux qui ont les moyens de se payer un système de santé privé seront contaminés par le virus. Donc en fait, la santé ne doit pas être privatisée, ce serait une négation du soin que nous devons en prendre, et doit devenir un commun. Pourquoi ça ne peut pas être un bien public, comme on a parlé beaucoup des biens publics mondiaux au début des années 2000? En fait, c'était une erreur de lexique, parce qu'un bien public, ça renvoie fondamentalement à l'autorité publique. Et donc dire que la santé est un bien public, c'est rester dans le schéma État-marché, État versus marché, dans lequel beaucoup d'entre nous économistes sont enfermés. En réalité, heureusement, il n'y a pas d'État mondial aujourd'hui, et j'espère qu'il n'y en aura pas avant longtemps, sinon ce sera la Chine. Et ce qu'il faut inventer, c'est un autre type d'institution internationale qui prenne soin de la santé. Alors ce qu'on a vu, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies a été complètement dépassé par la pandémie, puisqu'ils n'ont fait aucune déclaration commune, alors que nous étions, la totalité de la planète était affectée par une crise majeure, pour la première fois depuis 1945, et pour la première fois, le Conseil de sécurité ne dit rien, tout simplement parce qu'il est complètement dépassé. L'Union européenne n'a pas été très brillante pour prendre soin des Européens et de leur santé, et disons, l'OMS n'a pas été écoutée par les États-nations. Donc, il y a quelque chose de neuf à inventer, un autre type d'institution hybride qui permette une véritable discussion, une véritable négociation entre les États souverains, dont nous héritons à travers les traités de Westphalie, hein, 1648, et puis le secteur privé, Big Pharma en gros, et les ONG, la société civile. Et il existe une institution qui fait ça déjà aujourd'hui, qui s'appelle DNDI, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est une plateforme qui a été créée par des médecins français il y a une quinzaine d'années à Genève, en Suisse, et qui met autour de la table, qui réunit autour de la table ces trois acteurs improbables, les États, Big Pharma et les acteurs de la société civile. Pour faire quoi? En fait, pour proposer des thérapies contre les maladies qui sont négligées par le secteur privé, parce qu'il n'y a pas de demande solvable pour acheter ces thérapies. En fait, parce que ceux qui en souffrent sont trop pauvres. Par exemple, pensez à la malaria, que nous pourrions avoir éradiquée depuis longtemps si les 6 millions de personnes qui meurent de la malaria chaque année n'étaient pas toutes, enfin, la plupart d'entre elles en tout cas, ne faisaient pas partie des plus pauvres de notre planète.
En un mot, Gaël Giraud, juste pour conclure.
Donc, DNDI, c'est un exemple d'institution internationale qui prend soin de la santé comme commun. Et c'est de là que nous devons tirer notre inspiration pour inventer les institutions du XXIe siècle.
Merci mille fois à vous, Gaël Giraud, d'avoir été avec nous en direct de Washington. Ce dialogue avec Felwine Sarr, je rappelle le titre, L'économie à venir, a été préfacé par Alain Supiot. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Henri Leblanc avec Auriane Delacroix et Jean-Christophe Brianchon pour La Grande Table culture. Merci à Cathy Renaud et à Valentine Alloin pour la préparation de ces émissions. À la réalisation, c'était Thomas Beau avec Ludovic Auger. Bel après-midi sur France Culture.